On raconte l'histoire d'un petit garçon qui avait entendu parler que le cirque allait venir dans son petit village et qu'il y avait des affiches qui avaient été posées par des équipes des semaines avant la venue du cirque. Et il avait supplié son papa, « Papa, est-ce qu'on pourrait aller au cirque ensemble? Ce serait formidable, j'aimerais voir les clowns, les animaux. » Et en fait, le papa qui était au chômage n'avait pas beaucoup de moyens. Mais il avait réussi à sauvegarder assez d'argent, à faire des économies. Et il avait pu donner un ticket pour le cirque à son fils. Et son fils était tout heureux, tout heureux. Et le jour de la représentation, l'après-midi, le petit garçon a vu qu'il y avait des animaux qui marchaient sur l'avenue. Il y avait des clowns qui passaient, des lions en cage, des éléphants avec des cornacs, des personnes dessus, des ballerines sur des chevaux qui passaient là. Il s'est dit, ça y est, oh, c'est formidable, je vois enfin le cirque. Et puis il a donné son ticket à un clown qu'il a pris comme ça. Et le soir, il est rentré tout heureux, d'après-midi plutôt, il est rentré tout heureux chez son papa en disant, papa, c'était formidable, j'ai vu le cirque. Et son père lui dit, attends, tu as vu le cirque? Tu as vu les trapézistes qui sautent et qui se rattrapent? Ah non, j'ai pas vu ça. Tu as vu les vélos qui passent sur la piste? Il a dit, j'ai vu, il n'y avait pas de piste, c'était sur l'avenue. Et le papa a réalisé en fait que son fils n'avait pas été à la soirée du cirque. Il s'était contenté de la procession du cirque l'après-midi dans le village pour attirer les gens. Et la personne qui racontait cette histoire disait que souvent, nous aussi, on ne fait que regarder la caravane qui passe au lieu d'aller rencontrer le Seigneur. D'aller à la vraie rencontre que l'on a, que l'on peut avoir avec lui. Et quelque part, même si on ne connaît pas les personnes de cette histoire de cirque, on a un petit, du moins pour moi, je suis peut-être un grand sensible, on a un petit pincement de cœur en se disant, ce petit garçon qui voulait voir le cirque, il a cru le voir, mais en fait il a vu juste une petite caravane qui passait. Et le Seigneur nous invite à ne pas nous contenter de choses extérieures, de choses religieuses. On peut venir et être un peu comme ce petit garçon qui regarde la caravane passer, on a chanté, on va manger, on écoute un sermon, et puis on repart et toute la semaine, on ne parle pas au Seigneur. On le laisse de côté, on le retrouvera, on viendra voir la caravane passer, pour ainsi dire. Si vous vous souvenez, on a commencé l'étude du prophète Osée, et le Seigneur lui a demandé une chose un peu osée, avec un vilain jeu de mots. Il lui a demandé d'épouser une prostituée. Le Seigneur demandait quelquefois des choses bizarres à ses prophètes. On a rappelé qu'il avait demandé au prophète Ésaïe de se promener nu pendant 3 ans, qu'il avait demandé au prophète Jérémie de rester couché pendant des mois sur un côté, puis de se retourner de l'autre seulement pour quelques jours, et ça représentait les temps où les deux royaumes allaient être exilés en nombre d'années. Là, il a demandé à Osée d'épouser une prostituée pour que le prophète soit un exemple de Dieu qui est trompé par son peuple. Cette femme qu'il va aller épouser, Gomer, va lui donner un premier enfant. Jezreel, qui veut dire, dans un sens négatif, je disperse. Et puis, il va avoir deux autres enfants qui vont suivre. Le prophète n'était même pas sûr que c'était ses enfants à lui. Il va d'abord y avoir une petite fille qui va s'appeler Loruhama ou Loruhama, qui signifie pas de compassion. Dieu veut dire par là prophétiquement qu'il ne va pas avoir compassion de son peuple. Et puis il a le garçon qui naît après, il l'appelle, Dieu lui demande de l'appeler Lo-Ami, qui veut dire je ne suis pas votre, pas mon peuple. Autrement dit, Dieu faisait prophétiser que Israël allait ne plus être le peuple de Dieu. Des choses terribles. Et puis, Dieu juge, mais Dieu a un cœur d'amour. Et au verset 2, on voyait que, au chapitre 2, au début du chapitre 2, Dieu réitère sa promesse de rendre les Israélites pareils en nombre au sable de la mer. Et puis il leur promet qu'on les appellera, on reviendra à les appeler fils du Dieu vivant, et qu'ils seront son peuple. L'infidélité dans le mariage est souvent utilisé comme l'infidélité à Dieu dans l'idolâtrie. On a parlé de ça en détail la semaine dernière, ou plus en détail. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter le message. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est un procédé qui est souvent utilisé dans la parole de Dieu. C'est que Dieu va se mettre en procès avec son peuple. On va lire ensemble le début de ce passage. Chapitre 4 du prophète Osée. C'est le premier des petits prophètes, petits par la taille de leurs écrits, non pas par leur importance. Après les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Le premier de ces petits prophètes, les pages que vous ouvrez jamais. Souvent, c'est le cas, parce qu'on est un peu dérouté par toutes les allusions prophétiques. Et j'espère qu'ensemble, on va dégrossir un peu le message. Chapitre 4, je lis dans la version second 21. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélite. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Ça, c'était avant la COP 21. Je plaisante, à peine. Parce qu'en fait, le problème de l'époque, l'Éternel leur dit, l'Éternel qui souffre, encore une fois, il souffre comme s'il était trompé par son épouse. Il a le cœur brisé par l'idolâtrie, par le fait que dans leur vie, il y a des choses plus importantes que lui. Et l'Éternel, Dieu, le Seigneur, veut nous dire qu'il souffre lorsque nous avons des choses qui prennent la première place dans nos vies et qui ne le concernent pas. Des choses qui lui volent la première place qui devrait lui revenir. Il nous a créés. Il nous aime, il a de bons plans pour nous, il veut marcher avec nous. Et nous, nous allons nous passionner pour le sport, nous allons nous passionner pour les plaisirs, nous allons nous passionner pour l'instruction, pour les connaissances. Toutes ces choses ont leur place, ne sont pas mauvaises, mais elles sont terribles lorsqu'elles rejettent Dieu au deuxième, troisième, quatrième plan. Et c'est ce qu'il dit, l'Éternel a un procès. Il a un litige avec les habitants du pays. Ils avaient accepté dans l'Exode, dans le Deutéronome, ils avaient renouvelé leur vœu d'obéir à Dieu, de le suivre, de marcher avec lui. Et en fait, ils se sont éloignés de lui. Et Dieu va utiliser la technique du procès pour les condamner. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à la loi, si vous avez déjà eu participé à des procès pour vous ou contre vous. Généralement, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Même si on gagne, ça coûte énormément en temps, en argent, en soucis. Et voilà ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. La base de ce procès, en fait, ce sont les 10 commandements, la loi. Quand on va au tribunal, qu'on a un procès ou qu'on intente un procès, on se base sur des textes, sur des lois qui ont été reconnues comme valables et valides. Et on utilise ces lois. Et là, il dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, pas de connaissance de Dieu. Pas de vérité. Chacun a la sienne. Aujourd'hui aussi, c'est la grande théorie, ça. Il y a une morale de situation, suivant les cas, suivant les situations, suivant le passé, l'histoire, certaines choses peuvent être modifiées ou il y a une grande latitude. Non, la vérité, c'est la vérité. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de vérité absolue, sans remarquer qu'en disant ça, ils font appel à une vérité absolue. Ils montrent la faiblesse et la stupidité de leur raisonnement. Il n'y a pas de chesed. Chesed, c'est le mot, c'est l'équivalent du mot de grâce, d'amour, oui, pas de bonté. Les gens sont méchants les uns envers les autres. N'importe qui croit ce qu'il veut et il n'y a pas de bonté, pas de compassion. Et puis, il ajoute cette remarque, ça va être un thème des passages que nous allons voir là, c'est « il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays ». Le prophète parlait, il y a des siècles, au royaume du sud. On vous rappelle qu'il y avait le royaume de David et Salomon avait été divisé en deux à la mort de Salomon. Jéroboam avait pris 10 tribus avec lui dans le royaume du nord, la capitale était Samarie, et en bas au sud, il était resté Juda et Benjamin avec la capitale de Jérusalem, le royaume de Juda et le royaume qu'on appelle des fois Éphraïm parce que c'était la tribu la plus importante, le royaume du nord. Il avait créé cet état et pour s'assurer que les gens ne retournassent pas, je plaisante, c'est du subjonctif imparfait, à Jérusalem et risque d'être repris par le royaume du sud, il avait établi des lieux de louanges, des lieux d'adoration. Et aujourd'hui encore, on peut visiter ces endroits. Ils ont reconstitué en métal l'emplacement des autels. C'est quelque chose de voir que c'était l'endroit où des hommes et des femmes qui avaient connu une proche connaissance de Dieu, qui pouvaient voir le temple à Jérusalem, avaient commencé à l'adorer de façon idolâtre. Il a continué à adorer Jéhovah, Dieu, l'Éternel, mais en même temps, ils ajoutaient plein de choses. Et c'est comme ça que ça se passe souvent dans nos vies. On peut continuer à aller au culte le dimanche, mais on commence à se livrer à certains péchés qui nous éloignent progressivement de Dieu. Et à la base, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est intéressant de voir la relation. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas connaître la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est Jésus. Si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas la vérité. On connaît des théories, on connaît des tas de choses peut-être, mais ce n'est pas la vérité. Si on ne connaît pas Dieu, qu'on ne réalise pas la grâce qu'il nous fait, on va être fermé à montrer de la grâce aux autres. On va durcir notre cœur. On va être sans compassion, pas de bonté. Et le résultat, c'est les informations, c'est Internet, c'est BFM TV. Il n'y a que parjure et mensonge. Mais non, j'ai pas de compte en Suisse. Assassinat. On a arrêté Salah Abdeslam. Des assassinats, des vols, des adultères, l'immoralité. On recourt à la violence. On commet meurtre sur meurtre. Cette expression littéralement, c'est des actes de sang touchent d'autres actes de sang, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas. Il y a toujours la violence qui répond à la violence. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de restreinte, il n'y a pas de contrôle de soi. C'est pourquoi, verset 3, le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. C'est intéressant qu'aujourd'hui on a un mouvement écologique qui, par définition, malheureusement, la plupart du temps, écarte complètement Dieu de l'image. Alors qu'en fait, c'est lorsqu'il n'y a pas connaissance de Dieu qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté. L'appât du gain fait qu'on se moque pas mal de l'environnement, même si certaines voix bien pensantes ou personnes bien pensantes essayent de sauvegarder la nature. Ils le font comme un but en soi, ça devient une idolâtrie. Ils adorent les arbres. Ah, le grand arbre. Oh, le beau papillon. Ces choses, si on ne réalise pas qu'elles sont la création de Dieu et qu'on ne connaît pas Dieu, tôt ou tard, elles vont, et on le voit malheureusement, malgré les COP, on en est à la 21e. On a célébré l'anniversaire de la catastrophe, la marée noire de l'Amoco Cadiz en Bretagne. On n'est pas à l'abri de marée noire aujourd'hui encore. Et donc Dieu a un procès avec toute la nation qui s'est éloignée de lui, qui lui est infidèle spirituellement. Mais que personne, verset 4, on va lire la suite, que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui paierai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans se multiplier parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. C'est très, très détaillé, beaucoup de points. On va juste survoler un peu ce passage. Certains pourraient contester et se livrer à des reproches. Quand vous commettez une bêtise, quand vous faites une bêtise, quand vous faites un péché, si vous êtes comme moi, votre première tendance humaine dans la chair, ça va être de porter le blâme sur quelqu'un d'autre. Et j'étais en train d'étudier ce texte et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nos aventures avec notre rideau électrique à la maison. On a eu pas mal de problèmes. Tonio et Sébastien ont finalement réussi à le faire marcher bien et hier après-midi j'ai appuyé sur le bouton pour qu'il se ferme en ne surveillant pas ce qui se passait. Et alors que j'allais partir, d'habitude on peut le laisser se fermer tout seul, j'ai remarqué qu'il faisait toujours clair dans la pièce. Alors je suis allé voir ce qui se passait et j'ai vu que le rideau était complètement de travers. Et la raison, c'était parce qu'il y avait un balai appuyé contre la glace dehors. Et c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est moi qui aurais dû voir qu'il y avait un balai, mais ma première réaction c'est « qui c'est qui a laissé ce balai ?» Et je venais d'étudier ce passage et j'ai dit « oui, on fait des reproches aux autres avant d'assumer soi-même sa responsabilité. » Et si Dieu dit à son peuple qu'il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu, la tendance, ça va être de dire, mais ce n'est pas de notre faute, c'est la faute à Hollande, c'est la faute à TF1, c'est la faute à Paris Match, c'est la faute à Pas de Chance. Personne ne conteste que personne ne se livre au reproche. Et il dit, ton peuple est comme ceux qui se querellent avec les prêtres. Vous allez trébucher même quand il fait jour. Et avec le prophète, avec Osée, vous allez trébucher de nuit et je vais détruire ta mère. Alors c'est pas une insulte, je vais détruire ta mère. C'est simplement qu'il va détruire Israël. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et là, il s'adresse aux prêtres. Les prêtres eux-mêmes ont oublié la loi de leur Dieu. Oh, ils sont dans la caravane. Ils viennent voir la caravane, ils font toute la religiosité est là, l'encens, les robes, les réunions, les prières au petit matin avec ou sans croissant, tout est là, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils ont oublié la loi de leur Dieu. Il va oublier les enfants des prêtres, il n'y aura pas de succession de prêtres ou de familles de prêtres. Et normalement, on pourrait penser que plus il y a de prêtres, plus il y a de pasteurs, et plus Dieu est respecté, plus Dieu est connu dans le pays. Ce n'est pas le cas. Nous prions pour qu'il y ait davantage de pasteurs, de jeunes pasteurs en France. La plupart des pasteurs arrivent à l'âge de la retraite ou l'ont dépassé. Suivez mon regard. Et il y a de moins en moins de vocations, comme on dit. Comme si c'était quelque chose qui arrive par génération spontanée. Non, c'est parce que l'Église ne vit pas pour le Seigneur. Les enfants ne voient pas leurs parents consacrés au Seigneur. Ils n'envisagent même pas de servir le Seigneur à plein temps avec leur vie. Plus il y a eu de prêtres, plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Alors là, ça, une petite explication à ces mots, c'est que les prêtres qui sacrifiaient les animaux pour les péchés des autres, souvent, si ce n'était pas des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices où tout l'animal était brûlé, consacré à Dieu en brûlant complètement, ils participaient au sacrifice en prenant des morceaux de viande et en les mangeant pour eux. Et donc, quelque part, plus il y avait de péchés, plus il y avait de sacrifices, et mieux ils mangeaient. Plus ils étaient riches. Ça fait penser aux indulgences qui ont, dans l'Église catholique du Moyen-Âge, qui ont conduit Luther à s'opposer à ça. On ne doit pas s'enrichir. On ne doit pas chercher à s'enrichir en servant Dieu. Le sort du prêtre, verset 9, sera identique à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui paierai le salaire de ses agissements. Et souvent, le péché, c'est comme ça qu'il nous récompense, entre guillemets. Il ne satisfait pas. Le péché nous tente. On se dit que ça va être super. J'en ai assez de me conduire justement, je vais tricher un peu. Tout le monde le fait. Comme ça, peut-être que j'aurai de l'argent pour m'acheter le nouveau iPhone SE qui va sortir mardi ou jeudi. Je ne suis pas au courant, hein, mais... J'interviendrai contre lui, je lui paierai le salaire, ils mangeront sans se rassasier. C'est bête, ça. On se dit, chouette, on va pouvoir manger davantage, et puis on mange, mais c'est pas bon, ou on a toujours faim. Ça aussi, le péché, c'est les addictions. On est tenté de regarder de la pornographie, on sait que ça va faire du bien pour les hommes, et je crois maintenant aussi pour les femmes. Puis on s'aperçoit qu'en fait, on veut en voir plus, voir des choses qu'on n'a encore jamais vues. Et avec Internet, tout est à quelques clics. Prions les uns pour les autres. Je lui paierai le salaire, ils se prostitueront sans se multiplier. Ils pouvaient penser qu'il y avait cette idolâtrie qui consistait à faire qu'il y avait des temples à Astarté, la déesse de la fertilité, des temples de Baal, et le culte dans ces temples consistait aussi à avoir des relations sexuelles avec des prêtres ou des prêtresses. Sacré, entre guillemets. Rien de sacré, vraiment. Et ça ne leur donnait pas davantage d'enfants. Tout ça parce qu'à la base, ils ne respectaient plus Dieu. Verset 11, la prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Quand on s'adonne au péché, on perd le jugement, la sanité du jugement. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare, ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes, ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébins dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Verset 14, je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent. Ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifie avec des femmes débauchées. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas l'Éternel est vivant. Le péché aveugle, le péché rend fou. Et aujourd'hui, notre société a rejeté Dieu. La foi chrétienne est méprisée par la plupart de nos contemporains comme quelque chose d'archaïque, de rétrograde. Mais ces mêmes personnes qui se moquent de notre foi chrétienne sont les premiers qui vont aller consulter leur morceau de bois. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le morceau de bois, mais c'est l'horoscope. C'est l'horoscope qu'on lit, même si on n'y croit pas. Mais si jamais l'horoscope vous dit de pas signer de papier important ou de pas quitter votre travail aujourd'hui, généralement, les gens se disent après tout, peut-être qu'on ne sait jamais. Et c'est quelque chose qui est frappant. Il n'y a pas un seul journal en France, je devrais aller vérifier pour La Croix, mais Direct Matin qui propose un petit, qui est le journal gratuit maintenant après la disparition de Métro en papier, qui a un petit article sur les saints du jour et qui donne quelques versets bibliques, quelques... Je disais, ça c'est formidable. Bolloré, ça doit être un chrétien qui a du courage, qui ne va pas mettre l'horoscope. Il y a ça, mais l'horoscope est en bas. Il n'y a pas... Quel est le problème avec nos contemporains qui se moquent de notre foi, mais qui vont lire l'horoscope? Je vous invite à reprendre vos voisins et la prochaine fois qu'on vous parle d'horoscope ou qu'on vous demande votre signe, vous dites « Je suis du signe de l'agneau qui a versé son sang pour mes péchés. » Amen. Et donc... Il parle de toute la prostitution. La tradition, c'était d'aller sur les montagnes où il faisait plus frais, il y avait souvent des arbres, plutôt que de rester là où c'était très aride et très sec. Et ces hauts lieux, la Bible en parle souvent, c'était là où se produisait l'idolâtrie, où on célébrait l'idolâtrie, avec souvent des immoralités sexuelles. Le peuple sans intelligence court à sa perte. Quand il n'y a pas de connaissance de Dieu, il n'y a pas vraiment d'intelligence. On peut avoir un fort coefficient intellectuel, un quotient intellectuel, mais ça ne veut pas dire, on peut manipuler peut-être des équations. On vient de décerner le prix Nobel de mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, mais l'équivalent à l'homme qui, il y a une vingtaine d'années, a résolu le théorème de Fermat. Vous connaissez tous le fait que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, mais ça c'est au carré, mais si on va plus loin, on ne peut pas trouver de chiffres qui vont marcher dans des relations similaires, peu importe le détail. Mais c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à la recherche de ce théorème qui avait été annoncé par un dénommé Fermat à Toulouse, qu'il avait démontré, mais qui n'avait pas donné sa démonstration. Il avait dit c'est trop long pour le mettre sur le livre où on avait des démonstrations. Et depuis près de 300 ans, les mathématiciens les plus brillants se sont cassés les dents sur la démonstration du théorème de Fermat. Et donc, cet homme a réussi à le prouver. Il a reçu le prix Abel, je crois qu'on appelle, qui est l'équivalent du prix Nobel en maths, avec un prix de 600 000 euros. Donc, vous voyez, les maths, ça peut vous mener loin. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, ils sont au premier étage, ceux qui ne s'intéressent pas. Tout ça pour dire que Israël, verset 16, se révolte comme une génisse indomptable. rébellion. Et maintenant l'Éternel le ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles. Encore une fois, Éphraïm, c'est une désignation par la plus grande des tribus du royaume du nord d'Israël. Laisse-le, ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Le vent, c'est une prophétie pour désigner l'attaque des Assyriens qui va intervenir en 721-722, où Israël va être emmené en captivité en Assyrie et passer de nombreuses années là-bas. Encore une fois, on passe à un autre chapitre, mais c'est le même discours. Les versets et les chapitres ont été inventés par les hommes pour permettre de regarder les mêmes passages, mais ça ne veut pas dire que c'est inspiré par l'Esprit Saint, et là on aurait pu continuer. Écoutez ceci, prêtre, sois attentif, communauté d'Israël, prête l'oreille, famille du roi, en effet c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Là il s'adresse aux prêtres, au peuple, au prince, à la famille du roi. Vous avez été un piège. Il cite deux endroits qui étaient connus comme des endroits d'idolâtrie. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai une correction pour eux tous. Verset 3, je connais Éphraïm et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Toujours cette idée de connaissance ou non de l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda, le royaume du Sud, aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des grilles à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté le jour de la punition. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. On a dit que Dieu est en procès avec son peuple. Là, il a donné la sentence. Plutôt, il a donné le jugement, la réponse, qu'ils étaient impurs, qu'ils s'étaient prostitués. Et maintenant, il leur dit que ils sont si loin de Dieu, verset 4, ils ne peuvent même plus revenir à Dieu. Puissions-nous jamais nous trouver dans une situation où nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous ne pouvons même plus revenir à Dieu. Parce que Dieu ne veut plus de nous ou parce que c'est trop difficile de mettre notre vie en ordre. L'esprit de prostitution, mettre quelque chose à la place de quelqu'un, avoir une idole qui remplace Dieu, un faux Dieu qui remplace le vrai Dieu, toujours parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, fin du verset 4 du chapitre 5. L'orgueil d'Israël, c'est parce qu'ils sont orgueilleux qu'ils sont comme une génisse rebelle, indomptable. C'est notre orgueil, le péché le plus terrible. Le fait de se croire indépendant, le fait de se croire fort, sans reconnaître que tout ce que nous avons, toute notre force, elle vient de Dieu. Dieu ne peut pas bénir ceux qui ne sont pas humbles. Et encore une fois, l'humilité, ce n'est pas une qualité fantastique, oh, je suis tellement humble. Non, c'est du réalisme. On peut être très fort un jour et on attrape un petit virus et le lendemain on est mourant. Et on était si fiers d'être le champion régional de course à pied. Ou... Tant mieux, profitons de notre santé pour faire de belles choses, et le sport est une belle chose. L'orgueil du sport n'est peut-être pas aussi beau que l'utilisation des ressources physiques que le Seigneur nous donne, mais là n'est pas la question, c'est l'orgueil qui témoigne contre lui. Et Israël, Éphraïm, c'est les deux mêmes, c'est une répétition, une façon d'insister, et parce qu'il rajoute, le royaume du sud aussi va trébucher. Ils vont faire la caravane, ils vont venir avec leurs brebis, leurs bœufs pour faire des sacrifices, mais Dieu sera même plus là, parce qu'ils n'ont pas recherché la connaissance de Dieu. Ils ont raté la raison du cirque. Cirque, ça peut être pris en mauvaise part, mais là c'est qu'on on rate l'essentiel pour ce qui est superficiel autour. Et puis il les alerte, il est temps de sonner de la trompette, bientôt il va être temps d'annoncer l'invasion qui va les dévaster, le jour de la punition. Il parle de Rama, qui est un endroit biblique, il parle aussi des cris à Beth Aven. Beth, c'est la maison. Bethléem, c'est la maison du pain. Aujourd'hui encore, Beth, c'est le mot maison en hébreu. Beth Aven, normalement, c'était Beth El, la maison de Dieu où on faisait des sacrifices. Il n'y a pas d'endroit qui s'appelait Beth Aven. Aven, ça veut dire méchanceté, tromperie. Donc c'est ce qui devrait être la maison de Dieu est devenu une maison de tromperie, une maison de méchanceté. Il leur dit, derrière toi... c'est verset 8. Derrière toi, Benjamin, on pense que c'est sous-entendu, le conquérant d'Éphraïm arrive. C'est-à-dire celui qui a, l'Assyrien qui a envahi le royaume du Nord va venir, il n'est pas loin derrière toi. Derrière toi, Benjamin, il y a celui qui va venir vous dévaster aussi. Verset 10, les chefs de Judas sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Déplacer les bornes, ça voulait dire voler son voisin en faisant croire que le terrain qui lui appartenait maintenant nous appartenait parce qu'on avait poussé la borne, donc on avait redessiné la limite du terrain, toujours à son avantage bien sûr. Et c'était quelque chose qui est un vol, qui est en horreur à l'Éternel. C'est un thème qui revient souvent, déplacer les bornes. Nous, on parle de dépasser les bornes. Là, c'était déplacer les bornes. C'est une façon de les dépasser. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Quand on pense au torrent, quand on va aux enfants à la montagne et à la... C'est pas grand comme rivière, mais c'est y a une puissance du torrent. La colère de Dieu va être telle qu'elle. Éphraïm est opprimé, verset 11, brisé par le jugement, car il est suivi des ordres qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, c'est-à-dire une mythe, comme une carie pour la communauté de Juda. Dieu peut punir lentement, comme une mythe qui mange un petit bout de votre pull en laine. Première fois, vous le voyez, vous remarquez même pas, puis c'est quelques mois plus tard, vous voyez qu'il y a des grands trous. Et je ne me rappelle pas m'être accroché à un fil de fer barbelé. Non, c'est les mythes, ces petites choses. Ou alors, ça peut être une carie, comme une décomposition interne. On ne remarque pas, mais le mal est déjà dans la place. Le mal est déjà dans notre cœur si nous ne prenons pas soin de lui. Car de notre cœur sont issues toutes les voies de la vie. Éphraïm voit son mal et Judas ses plaies. On ne réalise pas qu'on a déplu à l'Éternel, on n'a pas de repentance dans le cœur, mais on voit le résultat de notre vie loin de Dieu, vie sans Dieu. Il y a du mal, il y a des plaies. Et puis, une chose terrible, c'est qu'Éphraïm va aller chercher de l'aide en Assyrie. Au lieu d'aller chercher de l'aide auprès de Dieu, on va chercher de l'aide auprès d'autres hommes. Alors je sais qu'il y a des moments où le recours à la médecine ou le recours à la psychiatrie ou de la psychologie peut être justifié médicalement, physiquement, parce qu'il y a des... Mais avant d'aller voir un psy, est-ce que vous avez pris le temps de remettre votre problème à Dieu ? Est-ce que vous prenez le temps de lui faire confiance pour vous soigner ? Il peut être comme Dieu peut être comme ces petites choses qui mangent de l'intérieur, ou alors il peut venir comme un lion. Un lion pour Éphraïm, un lionceau pour la communauté de Judas. Je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils ont recours à moi. Encore une fois, Dieu punit, Dieu est dur, mais c'est dans l'espoir de nous voir revenir à lui. Si nous nous repentons, si nous avons notre péché, si nous avons que nous sommes coupables et que nous recherchons la présence de Dieu, alors il nous reprend, il nous accepte, il nous aime. C'est le père du fils prodigue qui attendait son fils sur le... qui regardait tous les matins jusqu'au bout de la route, voir s'il n'allait pas revenir. Le Seigneur veut que nous revenions à lui. Aussi loin que vous soyez de lui, aussi facilement vous pouvez revenir à lui. On va juste terminer avec le chapitre 6 qui est très court. Venez, alors là c'est un passage, certains pensent que c'est, tout dépend de qui prononce ce message, venez renournons à l'Éternel. Certains pensent que c'est le peuple qui dit ça et disent que ça ne va pas marcher. Mais je pense, ma conviction, c'est que ça vient de la part de... C'est Osée, le prophète, qui parle au nom de l'Éternel et qui dit « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. » Le fait qu'il y ait cette annonce que la venue de l'Éternel est aussi certaine que celle de l'aurore me fait penser que c'est vraiment le prophète qui parle au nom de Dieu. Le peuple ne dirait pas ces choses sans être repris dans son cœur. Certains voient aussi dans le troisième jour, peut-être le troisième jour de la résurrection, de la croix dont on parlera dans les jours à venir et dimanche. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Je connaissais un très beau, bel hymne en anglais qui reprenait ces versets. Let us go to the Lord. Venons, retournons à l'Éternel, cherchons à le connaître, parce qu'il va venir, c'est sûr, aussi certaine que l'aurore. Il y a peut-être des fois où vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous savez que l'Éternel va revenir, le jour va revenir. Le plus terrible, ce serait de se dire, je ne suis pas sûr que le jour ne revienne. S'il y a une bombe atomique qui a explosé, qu'il y a un nuage de... qui cache complètement la lumière pendant des mois, qui sait, mais cette certitude que quelque chose va arriver, c'est la certitude que Dieu va venir. Mais verset 4, et à la fin, c'est décourageant parce que quelque part, le peuple ne semble pas se repentir. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Judas? Donc il parle des deux royaumes. Parce que votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. D'accord, vous allez venir, vous allez essayer d'être proche de moi, mais en fait vous allez toujours être à regarder la caravane passer, vous allez être pris par la religiosité des activités, le fait que vous allez dans un endroit avec d'autres personnes qui vous disent qu'elles cherchent Dieu, vous allez croire que vous le cherchez vraiment parce que vous êtes avec des gens qui vous disent qu'ils le cherchent, pensant que vous le cherchez vraiment, mais qu'en fait personne ne cherche vraiment Dieu. Vous m'avez suivi? Ou on recommence? Non. C'est pareil à la nuée du matin. Des fois, il y a un peu de brouillard le matin, on revient et on se dit, mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait cette prairie là, hein, parce que la nuée est partie. La rosée, dès que le soleil commence à briller, elle s'évapore. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Plus terrible, en fait, c'est pas les persécutions qu'on peut endurer, c'est lorsque les paroles de Dieu nous disent « Je t'ai rejeté ». Il peut nous tuer par les paroles de sa bouche. Ces jugements, parce qu'ils sont totalement justes et nécessaires, c'est comme la lumière qui vient éclairer une scène. Et là, il nous redit, « Je prends plaisir à la bonté et non aux sacrifices, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Je veux que vous veniez dans le cercle intime avec moi, que vous soyez sous la tente de mon amour, pas que vous regardiez simplement la caravane passer. Je prends plaisir à la bonté et pas au sacrifice. » Nous, on est humain et on ne voit pas l'intérieur. Mais Dieu voit l'intérieur. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérieur. Nous, on se soucie des apparences. On veut donner l'apparence d'être pieux, l'apparence d'être sérieux, d'être consacré à Dieu. Mais Dieu voit si c'est vrai ou pas. Ça, c'est cette idée de... que Dieu ne se laisse pas tromper par des apparences, qu'il veut une vraie relation avec nous. On pense que parce qu'on a fait des sacrifices, on a offert des holocaustes, donc là on n'a même pas gardé de la viande pour soi, on a tout donné à Dieu en faisant brûler l'animal complètement. On imagine que ça va faire plaisir au Seigneur. Alors aujourd'hui, on peut donner un don à l'Église. Ça va faire plaisir au Seigneur. Ce n'est pas pour vous décourager. Mais ce qui compte, c'est votre cœur. Nous, on a tendance à s'intéresser à ce qu'on peut faire pour Dieu. Dieu s'intéresse à qui on est avec lui. S'intéresse au service, Dieu s'intéresse au serviteur. Votre service, il peut le faire par 10 autres personnes qui le feront mieux que vous, plus rapidement, qui glorifieront davantage Dieu, mais le service qu'il vous confie, c'est parce qu'il veut vous faire grandir. Mais si vous vous contentez de l'extérieur, ça va pas le faire. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. C'était une cité de refuge. Donc une fois qu'on était à Sichem, on ne devait pas être attaqué. Mais ils en profitaient pour le faire avant. Ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se rend impur. Pour toi aussi, Judas, une moisson est préparée. Ce n'est pas une bonne moisson, c'est une moisson de jugement quand je ramènerai les déportés de mon peuple. La connaissance de Dieu. Dieu n'est pas intéressé par les sacrifices, par les choses extérieures, mais par un cœur brisé et humilié. Puissions-nous réfléchir à ces choses dans notre cœur et retournons à l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous interpelle. Même ces choses qui font appel à des références historiques bien éloignées, Seigneur, on remarque qu'elles sont malheureusement d'une actualité brûlante et pertinente, Seigneur. C'est vrai dans l'Église, et tu veux que les prêtres soient exemplaires, Seigneur. Aide-moi à ne pas vivre dans le péché, Seigneur. Parce que tels que sont les prêtres, telles sont les assemblées, telles sont les villes, le pays, Seigneur, on voit combien notre pays a besoin d'un réveil, pas seulement dans l'Église, mais ça commencera par moi, par l'Église, par la communauté chrétienne, Seigneur, pour inspirer un retour à Dieu de la nation, Seigneur. Nous voyons que, oui, nous vivons sans vérité, sans véritable bonté, sans connaissance de Dieu, et on voit les résultats, les parjures, mensonges, assassinats, vols, etc. Seigneur, merci parce que tu veux nous reprendre, tu veux nous faire du bien. Donne-nous tous, Seigneur, de passer cette semaine du temps avec toi. Pas machinalement, pas pour cocher une case ou dire sur Facebook qu'on a lu le passage ou pas, mais parce qu'on te rencontre et que tu peux nous parler. Seigneur, aide-nous à te rencontrer jour après jour, Seigneur, à te parler, à recevoir de toi. Seigneur, aide-nous à te connaître. Merci pour l'enseignement de la parole, Seigneur, la parole qui est le meilleur moyen de te connaître, Seigneur. Tu nous l'as confiée pour qu'elle accomplisse son effet dans nos cœurs. C'est notre prière aujourd'hui. Amen. Amen.